Donc, il s'agit à présent pour moi d'évoquer le contexte bibliothéconomique dans lequel s'insère l'œuvre d'Eugène Morel. L'objectif est d'essayer de mieux comprendre ses idées en les replaçant dans une époque particulière s'étendant des années 1890 à la Première Guerre mondiale. Une époque qui est marquée par de profondes réflexions et de profondes évolutions dans le monde des bibliothèques. Alors, il convient d'abord de rappeler que le paysage bibliothéconomique des années 1890 est essentiellement marqué par deux types d'institutions. Les bibliothèques savantes, destinées aux érudits d'une part, et les bibliothèques populaires, ouvertes à tous d'autre part. Or, ces bibliothèques populaires, qui ont connu leur âge d'or dans les années 1860-1870, ne paraissent plus adaptées aux nouvelles réalités du temps. En effet, le contexte économique et social de cette dernière décennie du XIXe siècle a considérablement évolué. L'introduction de nouvelles sources d'énergie transforme les techniques de production et impose une spécialisation qui fait reculer la culture humaniste traditionnelle. De même, la libéralisation et la laïcisation de la France, les conquêtes sociales, la maturation du mouvement ouvrier ainsi que la scolarisation généralisée favorise l'appropriation des valeurs de la culture légitime par les élites populaires. Cette acculturation des masses s'accompagne de la prise de conscience de l'obsolescence des modes de conservation et de communication du savoir. Le système socio-éducatif français destiné aux adultes apparaît basé sur des clivages sociaux et idéologiques finalement dépassés et se révèle par conséquent de plus en plus inadapté aux nouvelles réalités du temps. Cette situation est parfaitement perçue par une petite élite intellectuelle et progressiste qui va condamner d'une part le conservatisme érudit de la bibliothèque savante et puis d'autre part l'aliénation qui accompagne les expériences de lecture populaire, désormais enracinées dans des comportements philanthropiques, paternalistes, qui rendent impossible une remise en cause du système. Et ce sont des cercles intellectuels étrangers à la lecture populaire qui vont prendre conscience de l'obsolescence de cette situation. Alors, le premier signe d'une prise de conscience de l'inadaptation des bibliothèques françaises aux nouvelles conditions de la vie collective que je viens d'évoquer a lieu en 1890, date à laquelle l'Académie des sciences morales et politiques ouvre un débat sur les bibliothèques de province, plus précisément sur le rôle des bibliothèques et l'extension qu'elles pourraient prendre. Sans rejeter le système bipolaire existant, l'Académie constate que les bibliothèques populaires, tout en étant nécessaires, ne répondent pas à la demande d'une classe moyenne des intelligences cultivées, pour reprendre leur terme, pour laquelle il n'existe finalement aucune institution publique de lecture. Dans le même temps, les académiciens condamnent l'esprit de conservation des bibliothèques municipales et prônent la libre communication, la libre circulation des livres, car de même que la monnaie n'est une richesse que si elle passe en beaucoup de mains, les livres sont improductifs lorsqu'ils demeurent immobiles dans les rayons. En revanche, lorsqu'ils sont lus, consultés et feuilletés, ils éveillent l'esprit, développent les idées, créent par eux-mêmes une richesse, comme la pièce de monnaie qui circule. Les académiciens prônent le prêt à domicile, l'élimination des doubles qui encombrent les bibliothèques et leur regroupement dans une bibliothèque nationale de prêt qui, comme à l'étranger, organiserait un service de prêt interbibliothèque. L'économiste Henri Baudrillard, inspecteur général des bibliothèques, va intervenir dans le débat et être le premier à dire que la bibliothèque municipale traditionnelle peut aussi avoir un rôle éducatif, qu'elle doit être un auxiliaire de l'enseignement, et donc pour cela quitter les sphères de l'érudition, ouvrir ses collections aux ouvrages de vulgarisation, pratiquer le prêt de manière libérale et répondre en fait à la demande d'un public avide de lecture plus saine et plus forte que celle que proposent les cabinets de lecture et les bibliothèques populaires. Donc cette étape, ce premier débat par l'Académie des sciences morales et politiques est très important car pour la première fois en France, on estime que, sans remettre en cause le système en place, on pourrait investir les bibliothèques municipales de nouvelles missions, de missions de lecture publique précisément. Et pour la première fois, on entend dire que la bibliothèque traditionnelle peut avoir un rôle éducatif et devenir auxiliaire de l'enseignement. Ces idées, énoncées une première fois par l'Institut, sont appelées à faire leur chemin dans le monde des bibliographes et des bibliothécaires, à une époque où le métier, il faut le rappeler, se professionnalise et où un véritable esprit de corps commence à émerger. Ce phénomène s'est produit de manière progressive au cours du siècle, par la mise en place de concours et d'examens professionnels qui ont réduit les sinécures et favorisé la naissance de toute une théorie professionnelle qui a donné lieu à la publication de traités de bibliothéconomie. Peu à peu, la nécessité d'une organisation professionnelle s'est imposée qui aboutit à la création de l'ABF en 1906. Dès les premiers temps de son existence, l'ABF, désireuse de moderniser les bibliothèques et le métier de bibliothécaire, lance une enquête sur les bibliothèques provinciales, municipales et universitaires, dont Charles Sustrac, secrétaire général de l'association, également bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, analyse et commente les réponses. Charles Sustrac dénonce alors le conservatisme des bibliothèques municipales et pose la priorité du service public sur la conservation du patrimoine. Il rompt avec la tradition en affirmant que le bibliothécaire n'est pas un savant et que son rôle est de mettre le savoir à la portée du lecteur, quel qu'il soit, en adaptant ses collections au public qu'il sert. Sustrac plaide pour une bibliothèque ouverte à tous, actualisant constamment ses collections et offrant un large choix d'ouvrages utiles à l'étude, à la vulgarisation et à l'information pratique. Il déclare par exemple: dans toute localité, on devrait pouvoir passer aussi facilement à la bibliothèque se renseigner qu'on va au marché acheter de la viande et des légumes. Il propose que les coopératives, les syndicats, les sociétés savantes, artistiques ou sportives, donc toutes les structures, relaient l'État et les communes dans la promotion de la lecture. Cependant, conditionné par le système existant et finalement assez ignorant des bibliothèques de lecture populaire, il ne comprend pas encore qu'un développement efficace des bibliothèques n'est pas compatible avec le morcellement des institutions. L'idée d'un service public des bibliothèques lui est étrangère. Il faut attendre en fait 1908 pour que soient formulées des idées extrêmement novatrices et riches d'avenir. Elles émanent de deux personnalités hors du commun qui ont approfondi la première enquête menée par l'Académie en 1890. Il s'agit d'Henri Lafontaine et de Paul Hautelet, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir beaucoup plus longuement au cours de cette journée. Ces deux juristes de formation, pères de la bibliographie moderne, conçoivent une organisation planétaire de la documentation, dont la clé de voûte est une institution de lecture unitaire. Le rapport qu'ils présentent en 1908 à la 4e conférence internationale de bibliographie et de documentation est un ardent manifeste pour une bibliothèque publique moderne, ouverte à tous, où la fonction d'information primerait sur celle de conservation. Pour eux, le livre n'est pas seulement un instrument de recherche, mais, je cite, « l'outil par excellence de l'unification sociale. Par les livres, nous sortons de l'isolement intellectuel comme nous sortons de l'isolement économique par les routes et les chemins de fer. » Il importe donc pour eux de mettre le livre à la portée de tous et pour cela de réunir les bibliothèques populaires et savantes dans un même service public. De manière générale, il faut regrouper toutes les bibliothèques, quelles que soient leurs fonctions, dans un même service et donc en finir avec la ségrégation des collections et des publics. Les bibliothèques sont dès lors posées comme des établissements de premier ordre pour l'investigation scientifique, la culture du peuple et l'instruction des adultes. Elles s'affirment nettement comme le complément de l'école et de l'université. Bien plus, demain, elles seront des universités elles-mêmes. Les idées de Lafontaine et d'Hautelet constituent la base d'une politique nouvelle de la lecture de masse destinée à combattre le passéisme de la bibliothèque conservatoire, mais aussi le paternalisme et le misérabilisme de la bibliothèque populaire. Ces idées sont reprises par Morel et de manière générale par l'ABF et l'Inspection générale des bibliothèques, qui vont en faire leur ligne de conduite pendant près d'un demi-siècle. Cependant, l'ABF, composée à l'origine de notables professionnels connaissant peu la lecture de masse, va-t-elle réussir à mettre concrètement en application ces principes novateurs? Alors en réalité, les principes des pères fondateurs de la lecture publique tardent à trouver leurs applications concrètes. Les professionnels français tâtonnent quelque peu, mais leur réalisation, même imparfaite, témoigne de la prise en compte des idées nouvelles et du dynamisme de la réflexion qui occupe alors le monde des bibliothèques. Maurice Pélisson, par exemple, chef du service des œuvres post-scolaires, membre de l'ABF, publie dès 1906 une monographie générale sur les bibliothèques populaires, dont le dernier chapitre est un projet de réforme qui intègre les bibliothèques scolaires à des réseaux de lecture organisés par les bibliothèques municipales, et qui remodèle la lecture rurale en créant des bibliothèques intercommunales circulantes. Avec l'historien Charles-Victor Langlois, directeur du musée pédagogique, il lance en avril 1907 une enquête auprès des instituteurs du pays et obtient en 1909 les crédits nécessaires à l'organisation de réseaux cantonaux. Cependant, Pélisson et Langlois ne remettent pas en cause les institutions existantes. Alors, il y a également un élément qu'il convient d'aborder et qui est un cas un petit peu particulier. Il s'agit des bibliothèques ouvrières et de leur position assez moderniste à l'époque. En effet, l'essor de la lecture ouvrière est également révélateur du renouvellement des structures et de l'esprit de la lecture de masse. Après la loi Waldeck-Rousseau de 1884, les syndicats et les bourses du travail ont pris le relais des groupes d'enseignement mutuel et ont créé des bibliothèques ouvrières. Fernand Peloutier, secrétaire général de la Fédération des bourses de 1894 à 1901, donne à ces bibliothèques une orientation très élitiste, se rapprochant du modèle de la bibliothèque savante lettrée et donc un peu en porte-à-faux par rapport à la culture ouvrière vécue. Cependant, les bibliothèques ouvrières véhiculent des idées modernistes assez intéressantes. Au niveau de la méthode, par exemple, elles mettent à la mode la leçon de bibliothèque de Jean Massé, à une époque où, suivant les idées lancées par Henri Le Neveu, la lecture glisse vers le jeu dramatique et la séance récréative. Il est courant alors de dire que le théâtre favorise l'éducation populaire, et c'est une idée que Romain Rolland développe dans un article des Cahiers de la Quinzaine en 1903. Or, il faut bien se rappeler que Jeanne Morel a été le compagnon de route de Romain Rolland. Il a également écrit des pièces appartenant au répertoire du Théâtre du Peuple et dirigé une revue d'art dramatique qui militait pour l'institution des théâtres populaires en France. Les problématiques de la lecture ouvrière étaient donc connues de Jeanne Morel, c'est pourquoi il m'a semblé opportun de les rappeler brièvement à présent. Les bibliothèques ouvrières souhaitent également se doter, sur une idée de Fernand Peloutier, de musée du travail, c'est-à-dire d'une collection multimédia présentant simultanément les produits manufacturés et une information technique et économique sur ces produits. Projet qui s'accorde parfaitement à la fonction documentaire de la bibliothèque telle que définie par La Fontaine et ses collègues. Ce qui est donc la preuve que les idées de La Fontaine et de ses collègues sont en partie étudiées par Fernand Peloutier et les bibliothèques ouvrières. Notons également que plus tard, en 1917, la librairie du travail révélera plus clairement encore l'osmose existant entre la pensée moderniste et la culture ouvrière. Entreprise d'édition, librairie et bibliothèque de prêt, la librairie du travail publie en 1918 un premier catalogue où sont clairement énoncés les principes de la lecture publique moderne, prenant en compte les finalités multiples de la lecture et légitimant les niveaux, les paliers et le plaisir de lire. Donc après ce tour d'horizon des pensées modernistes de l'époque, il convient de se demander quel est l'impact de ces réflexions, de ces théories, de ces projets sur les bibliothèques municipales. En réalité, les bibliothèques municipales, dispersées et mal encadrées en ce début de XXe siècle, peinent à assimiler les réformes. Peu de bibliothécaires de province sont par exemple abonnés à des revues professionnelles. Cependant, les signes annonciateurs d'une transformation de la mentalité professionnelle se multiplient. Le prêt à domicile, par exemple, est de plus en plus pratiqué, malgré des réticences. On évoque alors le tort causé aux éditeurs et aux libraires, l'atteinte à l'intégrité du patrimoine imprimé, ou même parfois les risques de contagion microbienne. Cependant, le prêt continue à être pratiqué, et cela aboutit parfois à des limites, des solutions médianes. On limite parfois le prêt aux enseignants, aux étudiants et aux personnes honorablement connues, uniquement autorisées par les maires. Outre le prêt, la poussée moderniste est visible également sur le plan institutionnel. Dans quelques villes comme Albi, Angers, Grenoble ou Lille, bibliothèques populaires et bibliothèques municipales sont réunies sous une même direction ou sous un même toit, ce qui peut être considéré comme un premier pas vers l'institution unitaire de lecture et de documentation prônée par La Fontaine et Hautley. Cependant, nul ne songe encore à créer une librairie publique sur le modèle anglo-saxon, sauf Eugène Morel, à qui la municipalité de Levallois-Perret demande en 1911 de réorganiser sa bibliothèque populaire. C'est pour lui l'occasion inespérée d'introduire en France la pratique d'organisation anglo-saxonne. Nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir. Notons cependant qu'en 2 ans, il procède à des achats massifs, reclasse l'ensemble du fonds en utilisant la classification décimale pour la première fois en France, constitue une section de lecture enfantine et publie un catalogue de près de 700 pages avec une longue introduction qui est à la fois un manifeste et un manuel technique pour la bibliothèque publique moderne. Morel trouve un supporter enthousiaste en la personne d'Ernest Coyec, chef de bureau des bibliothèques de la ville de Paris, qui publie en 1915 un article plein de verve où il brosse un tableau corrosif des bibliothèques municipales de la capitale. On y retrouve les idées et les phrases mêmes de Morel, mais le propos est infléchi et soumis à l'épreuve de la pratique. Toute la problématique de la bibliothèque publique est alors énoncée, aussi bien en termes de locaux, de collections, de catalogues, d'horaires, de prêts, etc. En conclusion, il est possible de dire que si les pères fondateurs de la lecture publique ont amorcé une réflexion prometteuse, les réalisations positives sont minces. Les aspirations des bibliothécaires municipaux sont diffuses, leurs propos incertains et ambigus, dans la mesure où ils peinent à définir leur public et ne perçoivent pas mieux l'institution de lecture à venir. Les bibliothécaires les plus convaincus de la nécessité d'une réforme ne dégagent pas la problématique concrète de la bibliothèque publique moderne. La Première Guerre mondiale fixera leur regard sur le modèle américain implanté en France à partir de 1917 par l'armée et les comités d'aide aux régions dévastées.